RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublanche. Les accusés du procès Boko ont encore 4 jours pour trouver des avocats.
Oui, on commence cette édition au Bénin, Julien. La criette, hier, a accepté de mettre les débats sur pause jusqu'à mardi. On va vous expliquer. On va évoquer ensuite ces passeports. Ils sont prêts, ceux de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dont les 3 membres sortent officiellement mercredi prochain de la CDAO. Et les prix des communications téléphoniques augmentent de 50% au Nigeria. Les autorités donnent leur feu vert, mais conditionnent la hausse à une vraie amélioration du service. On va faire le point sur la situation autour de Goma, dans l'est de la RDC. Et puis notre dossier dans une dizaine de minutes, le cinéma sous IA. Et d'abord donc le procès de l'homme d'affaires Olivier Boko au Bénin, de l'ancien ministre béninois des Sports aussi, de leurs 4 co-accusés. Il est suspendu pour quelques jours par la cour spéciale, la CRIET, chargée des infractions économiques. Reprise prévue mardi prochain, le 28. Olivier Boko, ancien très très proche du président Patrice Talon, est notamment poursuivi avec ses co-accusés pour complot contre l'autorité de l'État, ce qu'il conteste. Pour rappel, les avocats des accusés se sont retirés collectivement du dossier au premier jour de l'audience. Jean-Luc Aplogan nous raconte l'audience d'hier.
La présidente de la Cour avait annoncé à l'audience précédente recourir au barreau pour commettre des avocats d'office. Il n'y en avait pas ce jeudi. D'entrée, la présidente demande aux accusés s'ils ont recruté de nouveaux avocats. Olivier Boko et Oswald Romeki répondent « Comment c'est possible, dans un délai aussi bref et dans des conditions de détention où on est enfermé toute la journée ? Combien de temps il vous faut ? 15 jours, réclament Olivier Boko et Oswald Romeki. Excessif, souligne le ministère public qui demande de leur accorder 5 jours. La cour le suit et renvoie la poursuite du procès au mardi 28 janvier. Le procureur spécial remet une couche sur le retrait des avocats. C'était prévisible et attendu. Le scénario était écrit de longue date. Je peux vous raconter la fin du film, accuse Mario Metonou. Les avocats visés sont présents. Ils ne peuvent pas réagir. Ils ne sont plus dans le dossier. Oswald Romeki s'en charge et lance. Nous n'avons écrit aucun film, la preuve, nous sommes devant vous. Nous voulons être jugés pour que les Béninois connaissent la vérité. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La CRIET qui a rendu son verdict, Julien, dans une autre affaire hier à Cotonou, toujours là, un régisseur de la Direction Générale des Impôts du Bénin ainsi qu'un féticheur ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Tous leurs biens leur sont confisqués. Ils sont reconnus tous les deux de coupables, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les juges béninois ont estimé qu'ils ont détourné plus de 4 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de plus de 6 millions d'euros. C'était en 2019.
RFI 6h33 à Ouagadougou. Cela fait un an que l'avocat burkinabé Guy Hervé Kam est en prison.
Et à l'occasion de cet anniversaire, le collectif de ses avocats dénonce par communiqué une détention arbitraire, un dossier vide. Et ce qu'ils appellent l'obstruction délibérée au fonctionnement de la justice, le leader du mouvement politique Sens est accusé de complot contre la sûreté de l'État. Guy Hervé Kam est aussi le cofondateur du collectif Balai Citoyen. Cette attaque maintenant au Burkina Faso, le détachement de l'armée basé à Séba dans le nord-est du pays, a été la cible d'une violente attaque armée mercredi revendiquée par les djihadistes liés à Al-Qaïda. D'après de multiples sources qu'on a joint, 7 civils ont été tués, une 20aine de soldats burkinabés également. Des dizaines sont blessés. Pas de commentaires de l'armée ou des autorités civiles du Burkina Faso. Placée sous blocus depuis plus de 2 ans par les groupes djihadistes, la ville de Séba n'est ravitaillée que par convoi militaire. Le Burkina, le Mali, le Niger qui quittent dans quelques jours officiellement la CDAO, mercredi prochain très exactement. Ils ont choisi la même date pour annoncer la mise en circulation de leur propre passeport commun, Serge Daniel.
Un spécimen du prochain passeport commun aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel circule. S'il ne change pas, la couleur du document de voyage sera le vert en recto. La mention Confédération des États du Sahel, AES, en dessous le nom du pays émetteur et ses armoiries. En verso, une carte géographique englobant les 3 pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Mais le 29 janvier, on n'assistera pas à une mise en circulation en fanfare de ce nouveau document des 3 pays dirigés par des putschistes. Les passeports estampillés CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, détenus par les ressortissants maliens, nigériens et burkinabés, seront toujours valables jusqu'à leur date d'expiration. C'est un communiqué de l'AES qui le précise. Autre précision, les citoyens de la Confédération AES, détenteurs des passeports arborant le logo de la CDAO en cours de validité, peuvent les remplacer par les nouveaux documents de voyage à partir du 29 janvier. En principe, malgré cette décision, les passerelles ne sont pas totalement coupées entre la CEDEAO et l'AES. Un pays comme le Mali a déjà annoncé que, sous certaines conditions, son territoire sera ouvert aux ressortissants de la CEDEAO. En fait, Bamako espère le principe de réciprocité. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Sénégal, 3 militantes féministes convoquées par la police.
C'était mercredi, elles ont été interrogées sur l'organisation d'un événement qui n'a pas eu lieu. Courant décembre, des militantes avaient annoncé un sit-in, seins nus, pour alerter sur l'augmentation des violences faites aux femmes, la prépondérance des viols au Sénégal. Un rassemblement annulé après son interdiction par le préfet. Avec cette convocation policière, mercredi, le réseau féministe au Sénégal dénonce une stratégie pour intimider les militantes pour le droit des femmes. Ce réseau appelle les autorités à se mobiliser davantage sur ces questions de violences faites aux femmes. Écoutez le docteur Ndeye Kadi Babou, elle est médecin, c'est l'une des coordinatrices du réseau des féministes au Sénégal.
Est-ce qu'aujourd'hui on se demande pourquoi est-ce que des femmes décident d'utiliser leur corps à visée de revendication? Et malheureusement, nos autorités et tous ces mouvements anti-droits passent à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mettre en avant la question des violences que les femmes et les jeunes filles subissent dans ce pays? Et du coup, on sait pertinemment que cette convocation-là entre dans cette ligne de réprimer les activistes lanceurs d'alerte. C'est aussi pour décourager la dénonciation publique des crimes que les femmes subissent et oublier du plus important, c'est-à-dire qu'au Sénégal, sur les derniers rapports statistiques que nous avons de 2023, on sait qu'avant l'âge de 18 ans, 8 femmes sénégalaises sur 10 ont déjà eu à subir des violences, que ce soit sexuelles, physiques, verbales, etc. On sait qu'au cours de toute la vie, 9 femmes sénégalaises sur 10 ont eu à subir des violences au Sénégal. Et donc la grande question, c'est de savoir jusqu'à quand ce silence assourdissant de nos autorités par rapport à cette problématique systématique qui est aujourd'hui un problème de santé publique.
Propos recueillis par Lisa Westerhoff. Au Nigeria, je vous le disais en titre, cette hausse des tarifs de téléphonie mobile, ils vont augmenter de 50%, augmentation souhaitée par les opérateurs. Ils avaient même demandé un doublement des tarifs. Finalement, cette semaine, la commission nigériane des communications a accepté cette hausse de moitié des prix. Charlotte Cosset.
Cet ajustement vise notamment à combler l'écart important entre les coûts opérationnels et les tarifs actuels, tout en garantissant la fourniture des services, précise le communiqué de la Commission. Elle doit également permettre aux opérateurs d'améliorer le réseau et la couverture. Et pour cela, les opérateurs doivent investir dans les infrastructures et l'innovation, alors que les tarifs étaient inchangés depuis 2013. Lignes, plateformes, logiciels, ces investissements se font en dollars, souligne la spécialiste du secteur, Teklam Bong. Dans un contexte de forte dépréciation du Naira, les coûts sont de fait plus lourds à porter. La suppression des subventions au carburant ont également imposé de nouvelles charges pour les opérateurs, les générateurs prenant régulièrement le relais d'un réseau électrique aléatoire. Cependant, cette augmentation intervient dans un contexte économique compliqué pour les Nigérians. Ces derniers sont confrontés à l'une des pires crises du coût de la vie avec une inflation qui dépasse les 30%. Cette hausse va peser sur les budgets des ménages. L'Agence nigérienne de protection des consommateurs a prévenu, cette hausse doit se traduire par une amélioration significative du service.
Charlotte Cossège.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats demeurent violents et la situation particulièrement tendue au Nord Kivu.
Le groupe armé du M23, qui est appuyé militairement sur le terrain par l'armée rwandaise, a lancé une offensive depuis maintenant plusieurs jours. Ce matin, elle se concentre sur deux fronts, l'un vers Kibumba au nord de Goma, l'autre à Sake à l'ouest de la capitale provinciale, même si pour l'instant le front de Sake semble relativement calme ce matin. Hier, une bonne partie de la journée, nous disait notre correspondant, le M23 appuyé par l'armée rwandaise était dans la ville de Sake. Face à eux, l'armée congolaise, les milices alliées, mais aussi les casques bleus de l'ONU et les troupes de la communauté d'Afrique australe, SADC. Les combats en cours, de manière générale, concernent l'ensemble de ces forces, Pauline Azidi.
Plusieurs fois dans la journée de ce jeudi, des témoins ont vu des hélicoptères venir bombarder les positions du M23 et de l'armée rwandaise dans les environs de Sake. Des renforts aériens confirmés dans la journée par les autorités militaires de l'Est qui ont assuré que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser et protéger Goma. Les FARDC et les Wazalendo, les groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa, ne sont pas les seuls dans cette zone de Sake. Il y a aussi les forces de la MONUSCO, la mission onusienne et de la SAMIDRC. Ce sont les troupes de la communauté d'Afrique australe, principalement des troupes sud-africaines. Ces deux entités ont rejoint dans la journée les militaires congolais sur le front. La MONUSCO qui a confirmé confirmé avoir activé et renforcé l'opération Springbok en collaboration avec les militaires congolais et ceux de la SADC. Une opération qui vise à défendre des positions dans et autour de Sake et de Goma, avec comme mission prioritaire d'assurer la sécurité des routes et des approvisionnements. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et sachez qu'Antonio Guterres condamne l'extension de l'offensive du M23. Il appelle le groupe armé à cesser son offensive, à se retirer de toutes les zones occupées. Le basket, les sports, le français Victor Wembanyama qui sourit, le camerounais Pascal Siakam qui pleure. Les Spurs de San Antonio ont battu hier soir les Pacers de l'Indiana lors d'un match de NBA délocalisé à Paris. 140-110. En football, c'est l'une des sensations du mercato hivernal en Europe. Omar Marmoush quitte l'Eintracht Francfort pour rejoindre Manchester City. Le prolifique attaquant égyptien signe pour 4 ans et demi et City aura dépensé entre 70 et 80 millions d'euros.
Et puis notre dossier pour terminer sur la création artistique à l'heure de l'intelligence artificielle.
La tendance est là, Julien. Elle est puissante et elle est largement discutée à Yaoundé cette semaine. Jusqu'à dimanche, la capitale politique du Cameroun accueille Yara, semaine internationale du premier film. Richard Onanena s'est rendu à un atelier de réflexion de jeunes cinéastes.
Adoum Djibrin Paterman, un formateur en innovation cinématographique franco-tchadien et une dizaine de cinéastes échangent au siège du Festival Yara au quartier Nkoletan. Le thème de l'atelier, la place de l'intelligence artificielle dans le cinéma d'aujourd'hui. Adoum Djibrin.
L'IA, en l'utilisant bien et en apprenant justement à bien l'utiliser pour qu'elle puisse devenir une forme d'entraîneuse, elle donne la capacité d'accéder n'importe où. On parle vraiment aujourd'hui d'une révolution et je crois fortement aux capacités de nos compatriotes du continent.
Pour les producteurs, acteurs ou encore scénaristes qui prennent part à cet atelier, cela sonne désormais comme une évidence. L'avenir du cinéma africain se fera avec l'intelligence artificielle. Gérard Nguélé, producteur du cinéma camerounais.
L'IA doit être considérée comme une opportunité infinie, un univers de possibles. Et pour le cinéaste, l'équation est simple, s'adapter ou disparaître.
Après 4 jours, Ange Dibouinatini, un jeune scénariste camerounais, a décidé de faire de cet outil un allié.
Lorsque tu as déjà ton histoire que tu veux raconter, que tu veux partager avec le monde, celle-ci peut te donner des alternatives. Ce qui fait que finalement, l'intelligence artificielle devient pour le scénariste, le meilleur allié même.
Cette semaine, le festival Yara a présenté The Last Screenwriter, un film réalisé avec l'intelligence artificielle par le Suisse Peter Luzzi. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Quel avenir pour le cinéma? Est-ce qu'on doit accueillir à bras ouverts cette technologie, certes révolutionnaire, mais problématique au sens où elle met l'humain face à des problèmes, à résoudre des questionnements? Sylvie Nouette est la directrice générale de ce festival Yara à Yaoundé. Elle estime que l'IA touche déjà en fait la quasi-totalité des métiers du 7e art.
Maintenant, l'intelligence artificielle est partout. Il y a de quoi avoir peur, mais en même temps, nous savons bien que c'est un outil. Et cet outil-là, maintenant, l'Afrique, oui, l'Afrique centrale en particulier, en a besoin pour développer son cinéma, peut-être gagner en temps et créer plus. À partir du moment où le cinéma est une industrie et que l'industrie est censée être un vecteur économique puissant, si l'Afrique peut l'utiliser pour devenir comme Hollywood, Bollywood, etc., pourquoi pas? Maintenant, l'outil n'est que l'outil parce que c'est l'humain qui le fait et qui fabrique cet outil-là. L'être humain sera toujours au centre. L'être humain pourra toujours avoir une vision, une mainmise sur cet outil. Il nous revient à nous de savoir justement comment l'utiliser une fois de plus.
Sylvie Nouette, la directrice du festival Yara à Yaoundé, dossier signé Richard Onanena, que vous retrouvez bien sûr sur notre site RFI.fr ou sur notre appli pour téléphone RFI.
Bien sûr.
À tout à l'heure.
Merci Vincent Dublanche, à tout à l'heure.